Merci pour ce temps de communion merveilleux. Seigneur, nous te louons. Tu aimes ton Église. Tu parles à ton Église. Ramène-nous aussi au commencement. Seigneur, afin que nous arrivions au but. Merci Seigneur Jésus. Ouins-nous encore aujourd'hui par ton Esprit. Nous avons confiance en ton Esprit que c'est lui qui nous parle. Merci Seigneur. Louons le Seigneur. Nous avons beaucoup reçu pendant ce temps. Le Seigneur nous a vraiment montré un chemin pour arriver au but. C'est une grande grâce. C'est aussi ma prière pour ce temps de communion. Seigneur, montre-nous le chemin pour arriver au but. Montre-nous ce dont nous avons besoin. Le temps est court jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le salut est plus près de nous que jamais. C'est si important que nous voyons ce qui compte pour expérimenter le Seigneur maintenant. C'est pour ça que le Seigneur nous a ramenés au commencement. C'est pas étonnant? Pour que le Seigneur puisse nous amener au but et de nous ramener au commencement, à l'arbre de vie, à la parole de vie. Ça ne devient pas plus compliqué, mais le Seigneur est notre chemin. Et Jean a un tel fardeau. Il a ce désir, c'est que l'unité entre nous et le Père croisse. Verset 13, dans 1 Jean 4, c'est vraiment un accent spécial. Jean a toujours répété, nous connaissons par là que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Nous demeurons en lui. C'est une expérience qu'il a faite, qui est très précieuse. Lui-même a vu dans le Seigneur, comment le Seigneur, dans Jean 14, le Seigneur a dit quelque chose de merveilleux. Dans Jean 14, verset 10, il a dit, comme je suis dans le Père et que le Père est en moi. Le Seigneur est demeuré dans le Père et le Père en lui. Il y avait une telle unité. Ce n'est pas seulement une visite, mais ils sont inséparables. Et dans Jean 14, verset 20, ça c'est un grand verset. Le Seigneur dit deux fois, « Croyez-moi, je suis dans le Père et lui en moi. » C'est merveilleux de voir ça. Le Seigneur était tellement un avec le Père. Mais maintenant, il y a le verset 20 et il dit, en ce jour-là, ça doit être aujourd'hui, nous reconnaîtrons que je suis dans le Père et vous en moi et moi en vous. Dans cette unité, c'est dans cette unité qui nous amène. Est-ce que tu peux t'imaginer cela? Il a une telle unité avec le Père et il veut nous amener, l'Esprit veut nous amener dans la même unité. Le Seigneur aimerait que nous n'expérimentions rien de moins que cela. Est-ce que vous avez faim de cela? Est-ce que vous voulez demeurer en lui? Est-ce que ce n'est pas une parole extraordinaire que nous puissions habiter en lui, en Dieu, habiter en Dieu? Une telle unité est lui en nous et tous en lui. Ça, pour le Seigneur, c'est un grand moment. C'était son but. Quand il a parlé de l'Esprit, dans Jean 3, il a parlé de la nouvelle naissance. Puis, il a parlé qu'on pouvait le boire. Et après, il y a quelque chose de plus riche encore. l'Esprit, c'est un endroit où on peut habiter. Plusieurs pensent que le Seigneur parle, qu'il va aller dans le ciel et là nous préparer une place. Beaucoup de gens comprennent Jean 14 comme cela. Je vais vous préparer une place. Quelle place? Il dit, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi, afin que vous aussi, vous soyez où je suis. Et où est le Seigneur? Dans le Père. Cette habitation, c'est l'Esprit du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir que le Saint-Esprit, cette onction, est devenue une demeure pour nous? Souvent, pendant ces jours, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais expérimenter l'Esprit si richement. » Pas seulement être né de nouveau, pas seulement de l'eau de la vie, mais de demeurer en toi. Et comment est-ce qu'on peut demeurer en lui? C'est vraiment un accent dans Jean 14 où le Seigneur nous montre comment demeurer en lui. Il dit par exemple au verset 21, « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. » Et verset 23, « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Ce verset nous montre comment c'est cette expérience de demeurer en lui. Il s'agit de garder sa parole. Le Seigneur habite en nous. Et nous devons vivre en lui. Et pour vivre avec lui, c'est important qu'on l'écoute. Le Seigneur a un tel désir que nous l'écoutions. Il dit si souvent, « Si vous m'aimez, vous accomplirez mes commandements. Vous garderez mes commandements. » J'ai dit au Seigneur, « Quels sont tes commandements ? Quel est maintenant ton commandement ? Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Que veux-tu que j'observe ?» Le Seigneur en nous, il attend vraiment qu'on ait cette attitude de l'écouter, de prendre garde à lui. Il dit, l'Esprit nous apprendra toutes choses et il nous rappellera toutes choses. Mais il aimerait aussi qu'on fasse attention à ce que lui veut dire. Si on s'ouvre comme ça au Seigneur, si le Seigneur veut nous montrer quelque chose, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, c'est très important. Parfois, on est si occupé dans la vie quotidienne qu'on ne fait plus du tout attention au Seigneur. On fait juste les choses comme on pense. Alors, on ne demeure pas en lui. Mais le Seigneur aimerait qu'on fasse attention à lui et que sa parole puisse habiter en nous. Et j'ai demandé au Seigneur, quels sont les gens qui demeurent en toi et en qui tu demeures? Et dans Ésaïe 47, Ésaïe 47, quel verset? Car ainsi parle le Très-Haut, c'est le verset 15, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les esprits contrits. Le Seigneur habite, il habite dans la hauteur, et il habite auprès de ceux qui ont l'esprit contrit et humilié. C'est vraiment si saint de nous humilier devant le Seigneur, de donner toute notre vie au Seigneur. C'était Ésaïe 57, pardon, verset 15. s'humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'aimerais vraiment t'écouter. Un esprit humilié et contrit. C'est là que le Seigneur demeure. Alors ça veut dire que ce n'est pas si difficile de demeurer en lui. Mais il a besoin qu'on ait une certaine attitude pour qu'il puisse habiter avec nous. Si on a beaucoup de connaissances, on va perdre cette attitude. La connaissance enfle. Alors tu n'écoutes plus le Seigneur. Tu es dans la réunion, mais tu dis, je sais déjà, je connais. Et tu dis, je sais déjà comment vivre avec le Seigneur. Mais on ne sait rien. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur veut faire avec toi dans l'heure qui vient? Est-ce que tu le feras? Est-ce que tu lui demandes, Seigneur, que veux-tu faire? Ce n'est pas si difficile. Mais il s'agit de ne pas continuer dans nos propres chemins. Mais on doit s'humilier. C'est si bon d'écouter le Seigneur. Seigneur, on fait beaucoup d'expériences riches si vraiment on s'exerce à écouter le Seigneur. Et le Seigneur t'aide aussi en tout. Parce qu'alors le Seigneur nous parle. Si je pense que je connais les Écritures, que je sais et que je connais ces choses, le Seigneur ne peut rien dire, vraiment rien. Mais ces prophètes sont un tel exemple. Zacharie a vu les chandeliers d'or et l'ange lui a demandé, tu sais ce que tu dis? Zacharie répond pas, oui, bien sûr, je sais. Je suis un prophète du Seigneur. Il dit, Seigneur, toi, tu sais. C'est si merveilleux d'avoir une telle attitude. Seigneur, parle-moi. Tu sais. Montre-moi ce que tu veux faire maintenant. J'ai besoin de toi. Amen. Alors, on commence à demeurer en lui. Et on n'emploie pas notre propre force, mais on le suit. C'est si bon de lui faire confiance. On n'a pas besoin de faire tant de plans, mais de l'écouter dans notre vie quotidienne. Alors, le Seigneur peut vraiment nous aider. Si on demeure en lui, alors il prend soin de toi. Pourquoi est-ce qu'on se fait tant de soucis? Si on a tant de soucis, ça veut dire qu'on ne demeure pas dans le Seigneur. Est-ce que tu as tant de soucis quand tu es à la maison? Tu ne sais pas où tu vas dormir? Mais non, tu n'as pas de soucis. Quand nous demeurons dans le Seigneur prend soin de nous. C'est si bon de lui faire confiance. Louez le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de tant de force, mais nous devons l'écouter et lui faire confiance. Alors, lui prend soin de nous et il nous conduit. Alors, on connaît que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quelle grandeur a le Seigneur pour nous? J'en dis, celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quand des difficultés viennent, quand il y a des problèmes dans notre vie, où est dirigé notre cœur? À quoi prenons-nous? À quoi nous occupons-nous? Est-ce qu'on regarde juste au problème qui est devant nous? Est-ce qu'on cherche une aide extérieure qui puisse nous aider? Tout ça, ce n'est pas avoir la bonne vision. Tout ce qui vient, dans tout ce qui vient, il faut regarder au Seigneur. Si nous regardons comme le Seigneur est grand, alors on peut demeurer en lui, peu importe ce qui arrive. Quand de grands problèmes viennent, mais que tu vois que ton Seigneur est bien plus grand, alors tu restes en lui. Quand des problèmes viennent et que je suis comme les apôtres dans le bateau, je vois que la tempête, alors je ne demeure pas en lui. Mais quand on pense à Éphésiens 1, 21, il est au-dessus. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Où habites-tu? En lui. Tous ces problèmes qu'il y a dans l'édification de l'Église, d'un côté, l'ennemi aimerait les utiliser pour nous faire perdre toute la paix. On est tellement soucieux. Mais le Seigneur, le Père, veut les employer, tous ces problèmes, pour qu'on reconnaisse le Fils et comme il est grand et que nous demeurions en lui. Paul aussi a eu une tempête, une grande tempête. Même tout le bateau a été cassé. Il était où? Il était en Dieu. Il n'a pas perdu sa paix pendant 14 jours dans la tempête. Il a dit, prenez de la nourriture et ayez courage. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce Fils de Dieu. Et ça m'a vraiment frappé ces jours, que celui qui le connaît, qu'il est le Fils de Dieu. Le Seigneur est si grand, tout lui est soumis. Est-ce que tu connais un problème qui soit plus grand que le Fils de Dieu, Reinhard? Jamais. C'est pour ça qu'on peut amener tous les problèmes devant le Seigneur. Il est au-dessus de tout, toute autorité. Si quelqu'un vient avec un problème, il faut lire Éphésiens 1, 21. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent. Il est le Fils de Dieu et il est notre demeure. Ça m'a aidé à demeurer en lui. J'ai dit à Dieu, tu n'es pas un petit Dieu, tu es le Dieu du ciel et de la terre, tu es le Créateur. Je veux demeurer en toi. Je veux connaître comme tu es grand. Et je veux connaître comme tu prends soin de nous. Et le Seigneur nous aide. On veut vraiment grandir en lui, peu importe ce qui se passe. Et nous voulons le connaître comme le Fils de Dieu. Nous avons connu l'amour. Verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Combien est-ce qu'on connaît l'amour de Dieu? Combien est-ce que nous sommes certains que Dieu nous aime? Quand la pression grandit, combien est-ce qu'on lui fait confiance? Il y a peu de temps, on avait une situation facile, mais quand même, ça a été une bonne expérience avec le Seigneur. Je voulais inviter un camarade de classe de mon fils pour qu'ils jouent ensemble. Et son père m'a écrit, mon fils ne viendra pas chez toi parce qu'il veut pas. Mon fils ne veut pas jouer avec ton fils. Alors, j'ai écrit à un autre parent. Et alors, il y avait deux enfants qui voulaient venir. Et les parents ont répondu, ni l'un ni l'autre ne veulent venir pour jouer avec ton fils. Et dans cette situation, j'ai pensé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Puis le Seigneur m'a parlé et a dit, fais confiance à mon amour. C'était si bon. D'abord, j'ai rien dit à ma femme, parce que si je lui raconte ça, ça va la mettre en bas. Puis le Seigneur m'a parlé. Mais qu'est-ce que je dois répondre à une telle chose? Et le Seigneur m'a dit, fais confiance à mon amour. Et à ce moment-là, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai dit, bon, j'ai dit, Seigneur, je te loue pour cette expérience. Tu es bien plus grand que tout. Tu sais pourquoi mes enfants ne doivent pas jouer avec cela. Et puis, il y a une autre famille qui avait envie. Les autres s'occupent de tant de choses autres que Dieu. Alors, j'ai invité quelqu'un d'autre. Et puis, il a laissé tomber ce qu'il avait à faire et il est venu. Et sa famille est chrétienne. Il y a tant de situations dans notre vie qui peuvent nous fâcher. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je dois passer par là? Mais Jean dit, nous avons connu l'amour et nous y avons pleinement cru. Si vraiment je fais confiance à l'amour de Dieu, rien ne peut me mettre en bas. Tout ce qui se passe, ouais, m'endommager. Paul dit dans Romains 8 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Paul a vraiment fait confiance à l'amour de Dieu, même quand il a fait face à la mort, il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même moi, face à deux, trois qui ne veulent pas venir, je dis, Seigneur, mais est-ce que tu nous aimes? Déjà, ça m'ébranle. Mais Paul dit, ni la mort, ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les puissances, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe ce qui arrive. Rien ne doit nous faire douter de l'amour de Dieu. Dieu est plus grand et il nous aime. Qu'on fasse vraiment confiance pleinement à son amour. À la fin, tu verras. Il nous a aimés. Si il nous châtie, c'est parce qu'il nous aime, comme on l'a entendu. C'est une bénédiction. Alors, celui qui est châtié, il faut faire entièrement confiance à son amour et lui dire, Père, je fais confiance, pas seulement toi, mais je fais confiance à ton amour. C'est une expérience très différente. C'est une grande bénédiction. Alors, Jean nous dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans son amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. Est-ce que tu demeures dans l'amour? Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un demeure dans l'amour? Est-ce qu'on peut reconnaître cela? Avant la conférence, j'étais malade quelques jours et je ne pouvais rien faire, j'étais au lit. Mais je pouvais penser à un Jean. Et alors j'ai demandé au Père, qu'est-ce que ça veut dire maintenant de demeurer dans l'amour? Comment est-ce que je demeure dans ma famille, dans ton amour? Ça doit être très pratique. Et le Seigneur m'a amené dans Colossiens 3 et m'a montré, si tu veux demeurer dans l'amour, tu dois premièrement déménager de ton vieil appartement. Si tu veux déménager dans une nouvelle maison, il faut d'abord sortir de l'autre, de la vieille demeure. Et d'où devons-nous sortir? Colossiens 3, verset 9. Ne montez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Ainsi, si on veut demeurer dans l'amour, d'abord, il faut entièrement se dépouiller du vieil homme. Il faut laisser cet endroit. Dieu nous a donné une nouvelle demeure. Pas la chair, pas le monde, pas le moi, mais l'esprit, son amour. Il faut entièrement se dépouiller du vieil homme. C'est conscient. Quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, je veux maintenant me dépouiller du vieil homme. Je veux me dépouiller de mon manque de patience face aux enfants. Je veux me dépouiller du fait de ne pas prendre soin des autres. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'amour? C'est juste un sentiment? Si vraiment quelqu'un a l'amour de Dieu, il se préoccupe plus des besoins des autres que de ses propres besoins. Alors, les besoins de ma femme sont plus importants que les miens. On n'est pas comme ça de nature. Et c'est pour ça qu'il est très important de se dépouiller du vieil homme. Ce vieil homme est égoïste. Et c'est pour ça qu'il faut s'en dépouiller. Dire, Seigneur, maintenant je déménage. On déménage tous. On a une nouvelle adresse. La nouvelle adresse, c'est le nouvel homme. Et le nouvel homme, il faut s'en revêtir. Et comment est ce nouvel homme? Verset 12 nous dit, « Revêtez-vous de sentiments de compassion. » Ainsi donc, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Est-ce qu'il n'est pas bon de demeurer là? Si on vit dans l'amour, on vit avec, dans cette compassion, on pardonne aux autres, on ne se plaint pas des autres. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. C'est une vie très différente. Si tous on vit dans l'amour, c'est si bon de demeurer là. Pas de vivre si naturellement. Pas de réagir comme on a toujours réagi. Mais d'avoir cette décision. Seigneur, je veux apprendre maintenant à vivre dans l'amour. Je me dépouille du vieil homme et je me revêt du nouvel homme. Louez le Seigneur. Il vit, il habite en Dieu et Dieu habite en lui. C'est si précieux. Ça va édifier toute la vie de l'Église. Verset 17, il dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, non, pardon, verset 17 de 1 Jean 4, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Là, j'ai aussi demandé au Seigneur, comment, dans 1 Corinthiens 13, c'est un chapitre merveilleux, si nous-mêmes, on veut s'éprouver à la lumière du Seigneur, comment ton amour est devenu parfait en moi? Alors, c'est certainement le meilleur chapitre à lire. 1 Corinthiens 13. Juste une petite partie de ça. Il est bon de toujours relire ça. Il est bon de relire ça et puis de venir devant le Seigneur. 1 Corinthiens 13. Verset 5. Il ne cherche point son intérêt. Est-ce qu'on devient de bons prédicateurs? Est-ce qu'on fait de grandes œuvres? Non. Mais on commence à se préoccuper des autres. Il ne cherche point son intérêt. Ça, c'est un résultat de la croissance de la vie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que le Seigneur écrit cela de manière si pratique dans 1 Corinthiens? On ne peut pas juste faire des suppositions. Non. Par là, on peut voir, est-ce que cet amour est devenu parfait en nous? C'est son amour, pas notre propre amour. Et cela nous donne la liberté au jour du jugement. dans Pierre. Il dit, si tu as tout ça, c'est cet aspect qui amène à l'amour. On a eu plusieurs mois là-dessus de communion. De penser à ces mots, ces sept mots, on dit de dans la foi, la vertu, dans la connaissance, la maîtrise de soi. C'est si pratique. Dans la patience, il y a la piété, puis il y a l'amour fraternel et finalement l'amour. Quand on lit cela et qu'on dit au Seigneur, « Seigneur, crois en moi, crois en nous. » Alors, Pierre nous dit, cela nous fournit une libre entrée dans le royaume. C'est la garantie. Comme Jean le dit aussi. Ainsi, louer le Seigneur. On n'est pas seul et on ne sait pas comment, à quoi ressemble l'amour. Non, c'est si simple. Alors, si tu vis tout seul, tu crois que tu es parfait dans l'amour. Mais si tu es 3 jours avec quelqu'un d'autre, alors tu vois comme ton amour est court. Dans la maison des frères, je me disais, ah, c'est tous des frères merveilleux. Ils sont toujours agréables. Après, je me suis mariée et j'ai dit, « Oh là là, Seigneur, j'ai besoin d'amour. Tu dois croître en moi. » On a un tel manque dans l'amour du Seigneur. C'est si bon de se préparer ainsi pour son retour. Comme il est lui-même, nous sommes dans ce monde. Nous vivons par lui. Ça, c'est notre vie. Nous ne sommes pas là dans ce monde pour découvrir beaucoup de choses dans le monde. Mais on a une chose à apprendre, c'est à vivre Christ. Quel est ton but maintenant chez Porsche? J'ai un seul but, c'est vivre Christ. Quand je vais au travail, c'est mon but. Aujourd'hui, je veux vivre Christ. Le reste, c'est secondaire. Louez le Seigneur. Puis il dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mais Dieu est Dieu. Le respect lui appartient. Et le Seigneur aimerait vraiment qu'on lui fasse confiance. L'amour parfait bannit la crainte. Comment on se sent quand on entend que le Seigneur revient bientôt? D'un côté, on a une certaine crainte. De l'autre côté, on a de la joie. Nous ne sommes pas dans la panique et dans les tremblements. D'un côté, on a une certaine crainte, mais de l'autre côté, on a de la joie. Le Seigneur vient. À la table du Seigneur, chaque fois, qu'on parle, vous célébrerez ça jusqu'à ce que je vienne. En nous, il y a cette joie. L'amour parfait bannit la crainte. Le verset suivant est si court, mais très précieux. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et ce verset nous montre, ce n'est pas notre amour naturel. Cela vient tout de lui. Pour aimer Dieu, d'abord, on doit avoir l'expérience que lui nous a aimés. Si nous remarquons, « Seigneur, mon amour pour toi n'est plus si frais », alors, il faut nettoyer entre lui et nous. Ou alors, pour que quand notre amour pour les frères diminue, c'est aussi un test. Si tu vois jamais les frères, je vois jamais ce frère de Zurich, je suis si content. Mais qu'en est-il des frères qui habitent avec moi, ou bien ceux que tu vois tous les jours, avec ceux avec qui on sert, est-ce qu'on les aime? Jean dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, celui qu'il voit, c'est vraiment un test quand on voit les saints. Qu'en est-il de mon cœur? Est-ce que je me réjouis? Est-ce que je regarde dans une autre direction? Ça dépend du verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout vient de notre relation avec lui. Le plus important que nous avons, c'est cette relation avec lui. Chaque jour, on doit être en ordre avec lui. Il n'y a aucun jour où ce n'est pas nécessaire de renouveler notre relation avec le Seigneur et de vraiment expérimenter que lui nous a aimé le premier. Et alors notre amour pour les frères et sœurs et pour les hommes viendra de là, parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors, tu aimes les frères et sœurs et même les hommes, même s'ils ne t'aiment pas. C'est là que tu reconnais l'amour. Si on aime les gens parce qu'ils nous aiment, c'est pas ça. Mais si on aime les gens, même si eux ne nous aiment pas, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Comment peux-tu aimer tous les frères et sœurs? Est-ce que tous les frères et sœurs nous montrent tant d'amour? Ou bien est-ce que tu as déjà fait d'autres expériences? Mais est-ce que tu aimes encore les frères? Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour pour les frères et sœurs ne dépend pas de ceux qui nous aiment. Mais ça vient parce que lui nous a aimés le premier. C'est de son amour que vient toute chose dans l'Église. Parce que notre communion avec lui, on doit l'intensifier, on doit la fortifier et elle doit être toujours renouvelée et fraîche. Il faut aimer le Seigneur de plus en plus. Qu'en est-il de notre cœur quand on se lève le matin? Est-ce que notre cœur nous attire? Les derniers jours, j'ai dit, Seigneur, attire mon cœur vers toi. C'est pas beau si notre cœur n'est pas attiré par le Seigneur. Le Seigneur dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Il est si bon de dire au Seigneur, Seigneur, mon cœur entier est pour toi. Et David a dit, crée en moi un nouveau cœur. Il s'est repenti. Il faut qu'on se repente pour que le Seigneur prenne tout notre cœur. J'aimerais vraiment être saisi par lui et pas être satisfait avant que le Seigneur soit tout pour moi. Alors on aime aussi les frères et sœurs. Même s'ils m'aiment ou s'ils ne m'aiment pas, ça ne change rien. Son amour coule de nous. Il accentue cela aussi. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Cela vient de la vie du Seigneur. Nous sommes dans une autre sphère dans l'Église. Si on a tout le temps des difficultés avec les frères et sœurs, cela vient parce que je suis partie de la vie. Parfois, je me suis sentie un peu isolée. D'où ça vient? Est-ce que tous les frères et sœurs ont changé en une nuit? Non, moi j'ai changé. Si tu es près du Seigneur, tu as le sentiment, je suis un avec les frères et sœurs. Ça, c'est un mystère. Que notre relation avec le Seigneur soit vraiment en ordre. Aimer Dieu et aimer Dieu, ça amène à garder ses commandements. C'est impossible d'être vraiment un avec Dieu. Pas seulement dans les petites choses, mais aussi dans les grandes. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment est-ce que je dois employer mon temps? Va à la réunion, occupe-toi de ce frère. Laisse cette vanité. Le Seigneur est très raffiné. on ne peut pas juste être si grossier avec le Seigneur et penser que tout va bien. Non. On ne peut pas avoir notre propre agenda du lundi au samedi et puis pas se préoccuper du Seigneur. Ça ne va pas. Si on aime Dieu, alors on garde ses commandements. Chaque jour, on doit avoir le Seigneur devant les yeux. Est-ce que tu ne penses pas que le Seigneur a quelque chose à te dire chaque jour? Oui, c'est certain. Et on ne veut pas passer à côté de cela. On veut garder ses commandements. Seigneur, donne-nous tes commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Comment est-ce que Jean peut dire cela? Parce qu'il a une telle communion avec le Père et avec le Fils. Quand le Fils était sur terre, il n'était pas contre le Père. Non, il était un avec le Père. Et c'est pourquoi ces commandements ne sont pas pénibles. Si on vient dans cette communion avec le Père, dans l'amour du Père, on demeure en lui, et il nous dit, fais cela, tu te réjouis de le faire. Si le Père te dit, serre les seins dans cette affaire, lis la parole. Je dis, oh, je dois lire la parole. Non, tu penses, alléluia. Ce verset me plaît tellement. Parce qu'il dit beaucoup au sujet de notre état spirituel. Si les choses commencent à devenir pénibles, alors c'est un signe qu'on n'a pas pris garde à lui. On n'a pas gardé ses commandements. On ne lui a pas obéi. Parce que si on lui obéit, alors, c'est comme il est écrit ici, ses commandements ne sont pas pénibles. Tu es un avec le Seigneur. Tu vas avec lui. C'est merveilleux. Et le Seigneur te montrera beaucoup de bonté. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup à faire. Et tout le monde était malade, ceci, cela. Mais c'était si bon de regarder au Seigneur et de faire ce qu'il voulait, ce qu'il disait. Et alors, il y avait sa bonté. Alors, ce n'est pas pénible. Psaume 139. Sonde-moi et connais mon cœur, connais mes pensées. Puis il dit, si, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 et 24. Il dit, pourquoi si tout est difficile, pourquoi est-ce que je suis chrétien? J'aimerais faire ça, mais ça, j'ose pas non plus. Ça encore, je peux pas. Si on a un tel sentiment, alors il faut relire un Jean. Et on dit au Seigneur, Seigneur, je me repens, je me retourne vers toi. Tes commandements ne sont pas pénibles. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Loue le Seigneur pour cette merveilleuse lettre, l'expérience de ce frère. Elle veut tous nous amener dans cette réalité.